cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 7 février 1986.
Une petite question. Mon ami est-il celui qui m'aime ou bien est-il celui que j'aime? Il est les deux. N'opposez pas, puisque l'amitié implique la réciprocité. Et c'est justement au moment précis où je peux dire que mon ami est celui qui m'aime et qu'il est celui que j'aime que l'amitié est nouée. Le nœud. C'est intéressant parce que les pères de l'Église disent que l'Esprit Saint, c'est le nexus, c'est le nœud. Alors, c'est toujours très intéressant quand, de fait, au plan philosophique, vous découvrez que l'amour est parfaitement amour pour nous lorsqu'il y a cette réciprocité. Alors, c'est toujours très délicat à bien préciser. Parce que c'est toujours mon ami, en tant qu'il est mon bien, que j'aime. Mais mon bien qui m'aime permet à aller plus loin dans les découvertes de mon bien. Et ce que je vous ai dit, le vécu de l'amitié et l'aspect philosophique de l'amitié, ce serait peut-être bien de bien préciser les deux. Le vécu de l'amitié, parce que au niveau de la pure phénoménologie, je regarde toujours le vécu. Le vécu de l'amitié, c'est la réciprocité. Et on le sait bien. Quand l'autre m'aime, il éveille mon amour. Et si je suis dans un état un peu de fatigue, il me permet de dépasser cette fatigue. Donc, il m'actue. Au niveau philosophique, ce n'est plus le vécu, c'est l'aspect de l'acte. C'est l'aspect du bien. C'est la personne de mon ami qui actue mon amour, qui spécifie mon amour. Dans l'ordre de l'exercice, mais, puisque le vécu c'est l'exercice, dans l'ordre de l'exercice, la condition peut apparaître comme ce qui spécifie. Pour qu'il y ait un véritable amour d'amitié, il faut la réciprocité. Donc la réciprocité est une condition nécessaire à l'amour d'amitié. Ça c'est sûr. Dans l'ordre de l'exercice. Dans l'ordre de l'analyse philosophique. Ce n'est plus l'exercice que je regarde, c'est ce qui détermine mon amour. Qu'est-ce qui détermine mon amour? C'est le bien. Et donc, c'est la personne. C'est mon ami en tant qu'il est mon bien. En tant qu'il me détermine. Alors, voyez, la question la plus difficile, c'est de voir le lien entre les deux. Quand je dis que la réciprocité est une condition, est-ce tout à fait juste? Ne faut-il pas aller plus loin? Parce que cette condition nécessaire pour qu'il y ait amitié, il faut réciprocité. Cette condition fait plus qui est uniquement du côté de l'exercice. Est-ce que cette condition n'est-elle pas aussi ce qui détermine? Est-ce que dans l'amour d'amitié, j'aime mon ami qui est mon amour? Dans le langage du reste des amoureux, tu es mon amour. C'est très curieux. On ne dit pas seulement tu es mon bien, ça ne se dit pas. Tu es mon amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'ami m'aime, le bien pour moi est plus proche que jamais. Il est présent. Mon ami est mon amour. À ce moment-là, l'amour ne porte plus seulement sur le bien, il porte sur l'amour. Il porte tout le temps sur le bien. Et c'est ça qui est très difficile à préciser, étant donné que l'amour, je vous l'ai déjà dit, est au-delà de toute analyse. Et cependant, nous cherchons à l'analyser. Et là, nous voyons bien la limite de l'analyse. Puisque l'ami est mon bien, et il faut le maintenir, ça, à travers tout. Parce que c'est la finalité. Il est mon bien. C'est ce qui me spécifie. Parce que si, alors je prends ici le point de vue de l'amour d'amitié qui réclame la vie commune. Quand on aime quelqu'un, il faut vivre ensemble. Je prends au plan philosophique, indépendamment du point de vue surnaturel qui modifie et transforme cet amour d'amitié dans un amour divin. Alors là, c'est autre chose. Je prends l'amour d'amitié au point de vue humain. Dès qu'on aime quelqu'un, qu'on l'a choisi comme ami, on veut vivre ensemble, d'une manière ou d'une autre. On essaiera de se retrouver, d'avoir une œuvre en commun, c'est tout ça, nous le reverrons. Mais on veut vivre ensemble, dans la vie commune. Si je regarde mon ami en tant qu'il m'aime, si subitement j'ai l'impression, le sentiment dans le vécu, l'impression et le sentiment, ça joue beaucoup. J'ai l'impression, le sentiment qu'il m'aime moins. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air de ne plus m'aimer. Mon amour disparaît. Celui qui est mon amour, pas mon amour, mais celui qui est mon amour disparaît. Il est toujours le même. C'est toujours la même personne. Philosophiquement parlant, il est le même. Et c'est ce qui répondra. Mais non, je suis toujours le même. Mais l'impression qui peut être purement subjective, mais dans le vécu, la subjectivité est très facilement l'objet. C'est le propre de la subjectivité. Alors, tu n'es plus le même. C'est ça tous les drames. Toutes les petites difficultés et tensions proviennent de cela. Si je fais de l'amour de mon ami pour moi ce qui spécifie mon amour, chaque fois que j'ai l'impression qu'il m'aime moins, je l'aime moins. Vous voyez comment, progressivement, l'amour se dégrade. C'est la cause de tous les divorces. Si vous êtes attentif, il faut analyser philosophiquement les divorces. Et vous voyez tout le temps que c'est ça. Parce qu'on n'a pas éduqué dans l'ordre de l'amour. Et on est resté à un niveau psychologique, à un niveau de sentiment, de conscience, et on n'a pas compris le véritable amour spirituel. Le véritable amour spirituel implique le dépassement du sentiment de l'amour de l'autre. Puisque c'est l'autre que j'aime en tant qu'autre. Et je l'aime pour lui-même. Là, vous saisissez le dépassement du conditionnement pour saisir la finalité. Et ça, je crois que c'est capital. C'est là qu'on saisit un véritable amour spirituel, qui est très rare. Les anciens osaient dire qu'un véritable amour d'amitié spirituelle est très rare. Dès qu'il est plus passionnel, dès qu'il est plus imaginatif, il demeure dans le vécu. Le passionnel nous maintient dans le vécu. Et l'imaginatif nous maintient dans le vécu. Et dans le vécu, je ne peux pas distinguer la condition et la spécification. C'est là le drame de la féminologie. Je ne peux pas faire la distinction entre les deux. C'est le vécu, c'est l'exercice. Alors, c'est là où la philosophie doit aider l'homme à aimer et à aimer vraiment. C'est là où un regard philosophique montre les limites de la psychologie, les limites de la féminologie. Parce que le vécu ne suffit pas à comprendre ce que c'est que l'amour. Dans le vécu, je demeure dans l'immanence du vécu. Et dans l'immanence du vécu, c'est-à-dire l'exercice du vécu, la condition sine qua non et la spécificité sont intimement liées. Autrement dit, la cause efficiente et la cause finale ne peuvent plus se distinguer. Et quand la cause finale et la cause efficiente ne se distingue plus, c'est toujours la cause efficiente qui l'emporte. Parce qu'elle est plus proche de notre exercice et du vécu. Et c'est le poids du vécu. Le poids du vécu est très très fort dans notre vie. Le vécu, quand on le regarde pour lui-même, fait des ornières. Ça ne peut pas être autrement. Ça fait des ornières. Et les ornières, on sait ce que c'est. C'est très difficile d'en sortir. Il faut donner un bon coup de fouet hein, pour que le cheval sorte des ornières. Et pour nous, c'est la même chose. Nous retombons si vite dans les ornières. On se réveille le matin avec une excellente bonne volonté de faire de cette journée une journée merveilleuse, meilleure que hier. Plus divine, plus sainte. Et puis, on ne sait pas pourquoi, on rencontre celui qu'on aime, qui a l'air d'être tout triste et qui ne nous regarde pas. Patatras, on retombe dans l'ornière. Et pour toute la journée, on est dans l'ornière. Si on demeure au niveau du vécu, si on demeure au niveau du vécu, mais tout de suite, les ornières prennent une place énorme dans notre vie. Si, au contraire, on est parfaitement éveillé dans l'amour, on est victorieux. C'est pour ça que je crois qu'il faut tout le temps dire que l'amour est victorieux des ornières. C'est ça la victoire de l'amour. C'est se placer constamment au niveau de la finalité. Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas à un niveau d'amour spirituel. On vit dans le point de vue affectif du vécu, qui est toujours extrêmement lourd et extrêmement fatigant. Pourquoi l'amour fatigue tellement? Alors qu'il devrait être une force de renouveau constant. En réalité, quand l'amour fatigue, c'est que vous ne vivez pas de l'amour, mais vous vivez du vécu de l'amour. Et donc, vous n'êtes pas au niveau propre de l'amour. Et vous êtes au niveau du vécu, du sentiment. Et le sentiment, il n'y a rien de plus fatigant. C'est pour ça que le sentiment, très vite, se vit au niveau du drame, du tragique. Et le tragique, c'est des brisures dans le sentiment. Et on a besoin de ça. Vous voyez, quand on vit dans une certaine opacité, on a besoin de briser cette opacité. Et on brise cette opacité par le tragique. Alors on fait une scène. Et la scène brise cette opacité. Ah, tu as toujours la même gueule, toujours ta soeur, tout le temps. Ce langage des amoureux, quand l'amour est vécu au niveau du vécu, mais ce sera noté. Et vous verrez tout de suite que c'est le tragique qu'on met dedans. C'est très étonnant ça, parce que ça c'est l'humain. L'humain, au mauvais sens du mot. C'est l'homme riche, si vous voulez. Je ne sais pas ce qu'on dirait pour la femme, mais c'est l'homme riche, n'est-ce pas ? Alors c'est ce qui fait que l'homme est replié sur lui-même. Quand il vit au niveau du vécu et du sentiment, il est replié sur lui-même. Et quand on est replié sur soi-même, on s'asphyxie. Et c'est pour ça que c'est si lourd. C'est pour ça que tout le temps, c'est quelque chose qui appesantit. Alors que l'amour devrait donner des ailes. Un véritable amour, mais nous donne des ailes, nous lie à notre finalité et donne le sens à notre vie. Dès qu'il y a ce repliement sur soi, c'est le repliement du vécu. Et c'est pas commode. Il faut bien voir, c'est là l'éducation dans l'ordre de l'amour. Il faut s'auto-éduquer dans l'ordre de l'amour. Parce que nous avons été éduqués, du moins si on l'a été, au niveau des vertus. On est censé, quand on entre en noviciat, être un homme qui est vertueux. Les quatre vertus cardinales. Du moins, dans le temps, on était censé. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais on était censé avoir les vertus. Et notre éducation, ça, il faut le reconnaître. C'est pour ça que le freudisme a porté tellement de fruits. Parce que notre éducation était au niveau des vertus, un peu à la manière stoïcienne. Pas royale. Et pas au niveau propre de l'amour. Alors il faut soi-même découvrir cette éducation qu'on doit tous faire au niveau propre de l'amour. Et au niveau propre de l'amour, c'est sortir constamment. Il ne faut pas mépriser le vécu. Le vécu est nécessaire. Parce que si on ne veut pas vivre du vécu, on risque de tomber dans le cérébral. Et celui qui va avoir les mains propres. Ah, moi, le vécu, ça ne signifie rien pour moi. Moi je ne veux que la fin. Ah oui. Alors à ce moment-là, c'est le cérébral. Vous systématisez. Vous vous durcissez. Vous voulez vous durcir parce que, vous avez vu, tout homme est menteur. Il n'y a pas d'amour dans le monde. Alors on se durcit. On devient un homme d'efficacité, et uniquement. Un homme d'œuvre. Alors c'est l'œuvre qui remplace l'amour. Là, c'est terrible, ça. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui arrive à réaliser des choses, mais c'est l'œuvre qui remplace l'amour. Parce que c'est l'efficacité qui a tué la finalité. C'est très vrai que c'est très difficile d'éduquer en nous cette capacité que nous avons d'aimer. On sait éduquer notre volonté en termes de mystes. En termes de saint Thomas et d'Aristote, c'est éduquer notre volonté. Nous avons éduqué les conclusions de notre volonté par les vertus. Les vertus n'éduquent pas directement la volonté. C'est un fruit. Tandis que seul l'amour, le bien, éduque la volonté. Vous voyez ? Question est très importante. L'ami, c'est celui qui m'aime et celui que j'aime. Alors on pourrait se demander, y a-t-il un ordre entre les deux? Eh bien oui. L'ami, c'est celui que j'aime en premier lieu. Et c'est celui qui m'aime à l'intérieur même de cet amour que j'ai pour lui. Ne faites pas l'inverse. Parce que si vous faites l'inverse, vous tombez dans le vécu. L'ami, c'est celui qui m'aime. Alors à ce moment-là, vous demeurez dans la réciprocité sans atteindre le bien. De sorte que c'est très important, quand il y a deux aspects, il y a toujours un ordre. On ne peut jamais rester dans la dyade pure, hein, la dualité pure, il y a toujours un ordre. Et alors il faut soi-même avoir suffisamment de lucidité dans l'ordre de l'amour pour bien voir que dans notre vie, il y a toujours le vécu, il ne faut pas le chasser. Mais il faut, à l'intérieur du vécu, le dépasser tout le temps. Vous voyez, c'est analogue au devenir et à l'être. C'est tout à fait analogue. Au plan philosophie, au plan métaphysique, au plan philosophie première, vous ne saisissez que des êtres en devenir, et vous-même, vous êtes un être en devenir. Votre personne, vous la saisissez à travers votre devenir. Vous êtes un peu plus personnel aujourd'hui qu'hier. J'espère. Il n'y a pas de régression. Vous saisissez l'être à partir du devenir. Vous saisissez le jugement d'existence à partir de vos expériences. Et vos expériences impliquent toujours un devenir. Je travaille, ça implique le devenir. Pendant un cours, je travaille. Je travaille une heure, le temps du cours. Bon, et au-delà de l'expérience, vous avez le jugement d'existence qui est méta-expérience. Le vécu dans l'ordre de l'amour, c'est cette réciprocité. C'est tellement agréable d'aimer quelqu'un qui m'aime. C'est merveilleux. C'est étonnant. Ça me valorise. Enfin, je suis aimé. Enfin, quelqu'un d'intelligent et qui a du cœur. Il a bien choisi. Jusque-là, j'étais complètement ignoré. Enfin, quelqu'un. C'est pour ça qu'on aime tellement l'amour d'amitié. Et que c'est si utile, ça me valorise. C'est très très bien. Mais si vous restez à ce niveau-là, l'amour d'amitié se corrompt. C'est drame. Tous les jours, c'est le vécu. C'est le sentiment, c'est le romantique, c'est tout ça. Il faut, au-delà du vécu, atteindre mon bien et l'aider pour lui-même. Oui, l'amour est analogue à l'être et le vécu est analogue au devenir. Il y a un parallélisme qui est très important. Alors, si vous saisissez parallèlement à la philosophie heideggerienne qui sépare l'étant de l'être, vous risquez, et c'est ça la cérébralisation, vous risquez de séparer l'amour finalisé de l'amour vécu. L'amour vécu séparé de l'amour finalisé, de l'amour pleinement spirituel, n'est plus rien. Mais je ne peux pas vivre de cet amour purement spirituel. C'est ce qu'on dit habituellement, selon le vieil adage. Qui fait l'ange fait la bête. Ah, moi, je ne veux qu'un amour purement spirituel. C'est la querelle de l'amour pur, quoi. Il faut en lire de temps en temps, ça, parce que c'est tellement joli. La querelle de l'amour pur. Et les gens, à un moment donné, c'était au XVIIe siècle, on voulait l'amour pur, un amour complètement désintéressé. Oh, surtout que je ne sache pas qu'il m'aime. parce que c'est moins désintéressé. Tandis que si je ne sais pas, alors c'est complètement désintéressé. Alors on en arrive à aimer même le démon. Cet amour complètement désintéressé. Alors, il y a le petit fil à la patte qui fait qu'on rattrape. C'est Brémond qui dit ça dans l'histoire de la spiritualité. Il y a des pages merveilleuses. Si vous voulez une fois vous reposer un peu dans la spiritualité, lisez dans Brémond sur le point de vue d'amour spirituel. C'est délicieux. Alors, vous savez, il donne ce fameux exemple que je donne toujours parce qu'il est étonnant. Et ça, c'est authentique. Cette personne, la châtelaine de la petite paroisse, qui offre au curé les cloches et qui dit à monsieur le curé, il faut que personne ne sache que c'est moi, parce que c'est vraiment pour Dieu que je le fais, et c'est uniquement pour Dieu que je le fais, amour complètement désintéressé. Mais monsieur le curé, mettez mon nom dans la cloche pour que chaque fois que le tympan tape, il tape sur mon nom. Vous voyez, le fil à la patte, la condition dans l'art de l'amour, plutôt que de reconnaître que le vécu est toujours présent, nous avons besoin que l'autre nous aime. Et c'est bien évident, ça nous donne de l'oxygène, un peu d'air pur. Nous en avons besoin, mais on ne s'y arrête pas, c'est pas la même chose. Dès que vous vous y arrêtez, c'est fini. C'est l'opacité, c'est le poids, c'est le vécu qui s'impose comme un absolu, et c'est la mort de l'amour. Parce que l'amour ne renaît que dans la mesure où vous saisissez l'ami comme mon bien. Et c'est comme au plan métaphysique, si vous restez dans le devenir, et vouloir retrouver, ne jamais redécouvrir l'être en tant qu'être, l'être disparaît. Autre question, quelle différence entre attraction et séduction? Ça c'est un très gros problème. Je vais simplement le toucher, on le touche souvent, hein. Il faut y réfléchir. L'attraction, c'est l'amour qui mobilise ma volonté. Je suis attiré. Je suis suspendu à quelqu'un. Mais le premier amour. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose de particulier. C'est que je suis mobilisé dans toutes mes forces. Et je suis saisi par ce bien. Je suis attiré. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. C'est attraction. C'est le bien qui se révèle à moi comme mon bien. C'est le bien qui se révèle à moi comme ma fin. Alors qui m'attire? Et qui m'attire pleinement et totalement. La séduction est beaucoup plus de l'ordre de l'intelligence. C'est le beau qui me séduit. On est séduit par le beau. La séduction d'une forme qui est belle. Alors la séduction est beaucoup plus de l'ordre de l'intelligence, de la connaissance, disons. De la connaissance, parce que c'est l'intelligence liée à la sensation. C'est l'intelligence liée à l'imaginaire. C'est pas l'intelligence séparée, hein. C'est l'intelligence liée à la sensation. Je suis séduit dans ma sensibilité. Je ne peux plus quitter cela. Alors là, le terme de polarisation est peut-être beaucoup plus vrai. Parce que ce terme de polarisation est plus du côté de la séduction que de l'attraction. Mais on l'emploie pour les deux, vous voyez. Et ça, c'est le piège du langage moderne. C'est que polarisation, vous ne savez pas, c'est du côté de la séduction, du côté de l'attraction. Je suis polarisé. Il faut qu'une communauté soit polarisée dans l'unité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La polarisation. Ce sont des termes comme ça, vous voyez, qui sont d'ordre psychologique et qui brouillent toutes les cartes. pour qu'au bout d'un certain temps, il n'y ait plus que la séduction. Je crois qu'il faut être très, très sensible à ces expressions. On peut les employer, hein, c'est pas mal. Mais il faut quand même faire attention. On est attiré. L'attraction polarise. La séduction polarise. Donc, la polarisation, c'est l'effet. C'est pas le caractère spécifique de l'attraction et de la séduction. La polarisation, c'est du côté du vécu. Le vécu, j'ai toute ma vie polarisée. Polarisée par quoi? Par une attraction d'amour ou par une séduction? Parce que la séduction polarise de façon étonnante et polarise la connaissance. Mais c'est très différent. Je suis suspendu au bien que j'aime, à la personne que j'aime. Ça, c'est l'attraction. L'attraction va plus loin. C'est pour ça qu'elle me met dans cet état de suspension, de le phénomène de l'élévation. Je ne touche plus la terre. Je suis attiré. La séduction nous immobilise. Très curieux. Beaucoup plus. Quand on est séduit, on est comme arrêté. C'est Valérie qui dit ça. Il y a quelque chose de juste. Quand on est séduit, on est comme arrêté. Ah, regardez. Peut-être que tu as vu ça pour l'attraction. Tandis que la séduction, ah, regardez. Et puis vous le dites tout de suite. Vous avez besoin de le dire dans la séduction. Tandis que dans la véritable attraction, vous gardez le silence. L'amour engendre le silence. La séduction engendre l'expression. Et veut que ça s'exprime. C'est très curieux, ces deux choses. Alors, dans le vécu, encore une fois, les deux sont souvent mêlés. Mais c'est important. C'est le point de vue du bien et le point de vue de la beauté, du beau. Alors, vous allez dire, et le vrai? Qu'est-ce que ça produit, le vrai? Ça, on le verra. Parce que attraction, séduction et le vrai. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que produit le vrai sur mon intelligence? Cherchez. Au point de vue éthique, hein, nous continuons. Je vous avais dit, il fallait bien distinguer ces deux moments très importants. Le bien qui nous attire. Et le bien qui se transforme en fin. La découverte de la finalité. Et la finalité, alors, ordonne. Parce qu'il y a un rôle de l'intelligence. C'est l'intelligence qui, à l'intérieur du bien, saisit la fin. Dès que je saisis la fin, je saisis immédiatement ce que sont les moyens. La fin est toujours unique et les moyens sont toujours multiples. Comme au plan métaphysique, alors mettez ça en parallèle là aussi, c'est très important. Quand je dis parallèle, c'est pour voir qu'il y a une analogie dans des niveaux différents. Vous avez la découverte, la substance et la qualité de la quantité, les accidents. J'avais dit qualité et quantité. Vous avez la découverte de la forme et de la matière. Deux extrêmes dans notre vie intellectuelle. La forme, matière. Vous avez la découverte de l'âme et du corps. Ce sont des niveaux différents et il faut respecter ces niveaux différents. Et puis vous avez la découverte de la fin et des moyens. Alors, ne mélangez pas respecter les niveaux au niveau pratique, éthique. Dès que je découvre la fin, je découvre les moyens. Mais vous ne découvrez les moyens que quand vous avez découvert la fin. Je découvre la qualité comme qualité que quand j'ai découvert la substance. Je découvre la matière que quand j'ai découvert la forme. Je découvre le corps que quand j'ai découvert l'âme. Mais ce sont des analogies qui sont intéressantes à bien préciser. Ce sont toutes les déterminations premières comparativement à quelque chose de second. Parce que dans la réalité existentielle, la substance est saisie par la qualité. Est-ce que je peux dire que la forme est saisie par la matière ? Vous voyez là la différence ? Dans l'ordre existentiel, c'est vrai. C'est la qualité qui fait découvrir le point de vue de la substance. Et la forme fait découvrir la matière. Et le corps peut me faire découvrir ce que c'est que l'âme. Parce que je n'ai jamais vu l'âme. Tandis que la forme artistique, je la saisis. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est de voir seul, dans la connaissance artistique, la forme. Est connu en premier lieu. C'est le privilège de la connaissance artistique, ça. Et c'est pour ça que la connaissance artistique joue un rôle si important dans notre vie. Parce que dans la connaissance artistique, la forme est connue avant la matière. Tandis que vous ne pouvez pas dire que votre âme est connue avant votre corps. Sauf chez des enfants tout à fait privilégiés qui ont une vie intérieure à partir de 3 ans et même dans le berceau ils ont saisi l'être. Alors ça c'est quand même des petits génies métaphysiques, n'est-ce pas? Mais normalement j'ai saisi mon corps avant, c'est vrai, la sensibilité est avant, tandis que dans l'ordre artistique la forme est saisie avant la matière. En métaphysique, la qualité est saisie avant la substance. Alors, en éthique, est-ce que la fin est saisie avant les moyens ? Eh bien non. En éthique, il y a toujours un peu le carpe diem épicurien. On est tous un peu épicuriens. On commence tous à être un peu épicuriens. Qu'on a aimé d'abord la nourriture. Et quelquefois, on l'a aimé tellement qu'on en a fait sa faim. Et son ventre est devenu l'idole. Ça arrive, ça peut très bien arriver. On aime tellement la nourriture. On aime tellement le bon vin et l'alcool. On s'y arrête. Les deux genoux en terre devant la bouteille. On ne lave pas l'eau, mais on s'y arrête et on l'emporte avec soi. Alors ça c'est propre du moyen. Le moyen est saisi en premier lieu parce qu'il est sensible. Alors je ne le saisis pas comme moyen, je le saisis tout simplement comme une qualité sensible qui me séduit. Qui fait plus que me séduire parce que je passe de la connaissance à l'aspect biologique. Je peux être d'abord séduit devant un plat merveilleusement harmonisé quant à ses couleurs et quant à sa figure. Les pois chiches sont d'un côté, les légumes sont de l'autre. C'est admirable comme les c'est séduisant, c'est admirable. Je regarde ça, je dis, bon, faut pas y toucher, c'est tellement beau. Nature morte, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais il faut quand même bien passer à l'exécution, puis se mettre à manger. Alors je mange. Et dès que je me mets à manger, la ligne est un peu perdue, mais c'est comme les cheveux en plein vent. Alors la ligne est un peu perdue, et puis il y a des petits points d'un côté, puis c'est perdu, alors que la ligne était si bien. J'ai le coiffeur, c'était la ligne en fait. Il y avait la ligne droite, merveilleusement faite. Vous voyez, alors je suis séduit par l'aliment. Je l'aime. C'est pas... Alors quelqu'un qui viendrait dire derrière, fais attention, ce n'est qu'un moyen. Je dirais, mais non, pas du tout, c'est l'aliment, je mange, c'est ma faim, dans tous les sens. Je le prends. Alors, la découverte première de la faim se fait par les moyens. Carpe diem, c'est l'épicurisme. L'épicurisme ne veut pas distinguer les moyens à la fin. Et je veux m'arrêter à tous les moyens. Et l'épicurisme, c'est juste l'inverse de l'éducation que Dieu donne à Gédéon. La différence avec les deux genoux en terre et de la pélo. C'est tellement joli ça, que ça doit servir comme petite chaîne. C'est vrai, je connais d'abord les moyens. Connais d'abord ce qui me séduit, le lait et le miel. Pour les uns, c'est le miel, pour d'autres, c'est le lait. Et la ligne de partage bien faite, le lait et le miel. Et j'aime cela. Puis petit à petit, mon intelligence arrive, mon intelligence pratique, mon intelligence affective. Arrive à discerner le moyen de la faim. Et au moment où je réalise cette induction pratique, la saisie de la faim, immédiatement, je comprends ce que c'est qu'un moyen. Il faut saisir la faim pour relativiser le moyen. Tant que je n'ai pas relativisé le moyen, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour relativiser le moyen, il faut aimer. Alors, vous voyez, c'est très intéressant là, parce que vous comprenez tout de suite que celui qui veut éduquer de l'extérieur, il dit, mon petit, tu ne dois pas t'arrêter à ce moment, à cet aliment. Il y a autre chose. Mais vous n'avez pas encore saisi autre chose. Alors vous avez là la serre. La moralisation qui vous dit ne t'arrête pas là, mais on ne connaît rien d'autre. Alors on se perd dans le vide. Si au contraire vous avez découvert un amour plus fort, cet amour plus fort vous détache de ce que représente cet amour relatif. C'est très important de dire ça. C'est là la purification. Qui se fait de l'intérieur par l'amour. Et c'est là l'éducation d'amour. Vous commencez par aimer les biens sensibles. Vous êtes séduit par les biens sensibles. Vous êtes séduit par les beaux yeux, par la forme, par la beauté de l'aliment. Vous êtes séduit. Et puis, de là, vous passez à la découverte de la faim. Et dès que vous découvrez la faim, immédiatement, votre cœur est saisi par un bien absolu. Il est attiré. Et quand cette attraction, alors vous pouvez regarder ce bien sensible comme un moyen. Il est relativisé. Vous saisissez donc à l'intérieur du bien, le bien sensible. Et un bien qui est au-delà du sensible, un bien spirituel. Cette distinction, elle est fondamentale. La faim de l'homme est toujours un bien spirituel. Le bien sensible ne peut pas me finaliser.